Les Années-Lumière, édition du 16 août 2009. Le livre électronique est prêt, mais le monde de l'édition reste prudent avec le numérique. Bonjour, ici Yannick Villedieu d'équipe, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Tout d'abord, je suis bien heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Bon, l'émission Les Années-Lumière ne prend jamais de vacances, alors merci à mes remplaçantes à la barre, Chantal Srivastava et Sophie André-Blondin, qui sont elles-mêmes en vacances cette semaine. Mais il y a quand même du monde dans l'émission, donc vous, Hugues de Roussan, qui allez commencer l'émission avec ce fameux livre électronique.
Oui, Yannick, ce livre électronique qui va éventuellement transformer le monde de l'édition et du livre, qui lui avance à petits pas.
Gaëlle Lucia Berdou, la grenouille est un modèle animal classique en science, mais elle intéresse aussi des artistes.
Et oui, les amphibiens sont à la fois source de connaissances et d'inspiration à la Société des arts technologiques à Montréal. Et comme mon dévouement n'a pas de limite, je suis allée à la pêche à la grenouille.
Ah, formidable. Nous aurons ensuite le courrier des Années-Lumière, une question sur ce qui serait une nouvelle variété de nuages, l'Aspiratus. Et nous terminerons avec la chronique. Notre médecin favorite, Marie-Dominique Beaulieu, nous parle de recherches sur les médicaments chez les enfants. Deuxième heure, Gaëlle, vous nous présentez un nouvel épisode de notre série d'été sur les stars des étoiles, une série qu'on fait pour marquer l'année mondiale de l'astronomie.
On parlera d'Edmond Halley et de sa comète avec une spécialiste, Annie-Chantal Levasseur-Rogour, qui est aussi justement la présidente de l'année mondiale de l'astronomie en France.
Après le petit journal de la science, nous allons vous présenter en rediffusion une grande entrevue de Chantal Srivastava avec Michel A. Bouchard sur le thème « Guerre et environnement ». Et pour terminer l'émission, je recevrai l'auteur de la semaine, le docteur André Parent, chercheur en neurosciences à l'Université Laval à Québec. Son livre s'intitule « Histoire du cerveau » et il est publié aux presses de l'Université Laval. C'est un livre sur support papier, un livre traditionnel, mais pour commencer, les livres en support électronique. Et oui, les livres en support électronique, hein, on en parle depuis longtemps, on sait qu'il existe, ces livres-là, qu'ils existent, mais on ne peut pas dire qu'ils soient entrés solidement dans nos habitudes de lecture. En fait, le livre électronique est en retard par rapport à d'autres médias comme les films, la musique, etc. Mais ce n'est qu'une question de temps, probablement, avant que ce livre électronique ne vienne bousculer l'industrie du livre, qui, il faut le dire, hésite encore à entrer de plein pied dans l'univers numérique. Hugues de Roussan, donc première question, de quoi on parle, hein? Qu'est-ce que c'est que ça qu'un livre électronique?
Eh bien Yannick, contrairement à un livre papier que tout le monde connaît, un livre électronique ce n'est pas matériel, c'est un fichier électronique qui est conservé dans un ordinateur quelque part et qui appartient à des cyberlibrairies ou encore à des maisons d'édition et ces fichiers sont disponibles sur Internet. Alors certaines de ces cyberlibrairies ont un vaste choix, notamment aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers de titres, des sans qu'il faut payer, ou encore des titres qui ont été versés dans le domaine public, et ces titres-là, on peut se les procurer gratuitement. Au Canada, on en est au tout début, et au Québec, seules quelques maisons d'édition ont commencé à vendre des livres électroniques.
Alors, bien sûr, on va parler de fichiers numériques pour ces livres-là, mais il faut les lire, évidemment.
Oui, il faut les lire. Dans le cas d'un livre papier, le support, c'est le livre lui-même. On achète le livre, on l'amène à la maison et on tourne les pages. Dans le cas d'un livre électronique, ce n'est pas tout d'avoir un fichier, il faut ensuite avoir un support électronique pour les lire. Et ces supports, il y en a de toutes sortes, Yannick. Alors, on va écouter Bruno Guglielminetti, qui est notre spécialiste à Radio-Canada, de tout ce qui touche le cyberespace, l'Internet et le numérique.
Un livre électronique ou un livre numérique, c'est selon. L'appellation change, mais le produit reste le même. C'est essentiellement un ouvrage, un texte qu'on peut lire à l'aide d'un appareil. Alors, que ce soit un ordinateur, que ce soit une ardoise électronique, une tablette, un téléphone cellulaire ou un petit portable, C'est ça. Essentiellement, c'est un texte qu'on peut lire. Ça peut prendre les formes d'une nouvelle, un roman. Il y a même des encyclopédies maintenant qui sont publiées sous format électronique. Alors, c'est ce que c'est.
Comment fait-on pour que ce livre électronique apparaisse sur notre écran, que ce soit une ardoise ou que ce soit un portatif? D'où il vient, ce livre électronique?
Bien, au départ, il faut savoir que maintenant, la plupart des maisons d'édition travaillent quand même sur ordinateur. Donc, la matrice, si vous voulez, c'est le document sur lequel a été écrit l'ouvrage. Alors, normalement, ça a été écrit par ordinateur. À la limite, si ça n'a pas été écrit par ordinateur, par l'auteur, parce qu'il y en a qui travaillent encore à la dactylo ou à la main, bien, à un moment donné, dans le processus de création, ça a été transféré sur un fichier, un peu comme un fichier Word, là, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, bien, plutôt que de l'envoyer à la mise en page vers l'aboutissement, vers l'impression, l'éditeur de livres électroniques, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le fichier de texte et il va en faire une mise en page électronique. Et donc, essentiellement, ce que ça va faire, c'est de formater, reformater le document pour que ça puisse faire des petites pages qui se lisent bien à l'écran. Mais par la suite, là, et je vous dirais que c'est là où le bas blesse à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plusieurs formats qui existent dépendamment du type d'appareil qu'on utilise. Alors, on peut retrouver le bon vieux PDF, qui est une technologie qui a été développée par Adobe, que les gens utilisent très souvent sur l'ordinateur. Alors ça, ça existe. Mais parallèlement à ça, il y a énormément de systèmes propriétaires qui ont été développés par les fabricants d'ardoises électroniques, de lecteurs électroniques, et c'est là où ça devient compliqué.
Alors justement, Bruno Guglielminetti vient de parler d'une ardoise électronique. C'est quoi ça, une ardoise électronique?
Mais on peut parler d'ardoise, on peut parler de tablette électronique, on peut parler même de liseuse ou de lecteur électronique. En fait, tout ça, ça veut dire la même chose. Il n'y a pas encore vraiment un nom générique en français pour désigner ce livre électronique que certains appellent tel quel, livre électronique ou e-book, mais ça peut prêter à confusion parce que le livre électronique, c'est aussi le fichier électronique lui-même sur lequel est contenu le titre, le texte d'un livre papier. Donc, prenons le nom de lecteur électronique, c'est en fait pas plus grand qu'un livre avec un écran non lumineux de quelques centimètres, 10, 15, parfois plus, sur lesquels on peut lire un livre en faisant défiler les pages. Les derniers modèles ont des écrans tactiles et ces lecteurs ont de grandes mémoires. Elles peuvent des fois contenir des centaines de milliers de livres. Il y a différents modèles sur le marché, Sony a le sien, ainsi que le cyberlibraire Amazon. Avec Sony, on peut télécharger directement d'un ordinateur. Avec Amazon, cela se fait avec un système sans fil.
Bon, alors ça, c'est pour l'appareil et pour la chose. Mais maintenant, le milieu de l'édition, l'édition du livre, il est devant ça. Est-ce qu'il peut se permettre effectivement d'ignorer ce phénomène-là du livre électronique?
Pas vraiment, Yannick. On l'a vu pour la musique ou les films où le numérique a transformé non seulement l'industrie, mais aussi les habitudes d'achat et d'écoute des gens. La même chose arrivera pour le livre. La question n'est pas de se demander si le livre électronique va remplacer le livre papier, mais plutôt quelle sera la place du livre électronique dans le marché du livre de demain. La réponse n'est pas encore claire, mais une chose est certaine, l'industrie devra changer, notamment pour répondre aux besoins des jeunes. Et on écoute Daniel Desjardins, qui est responsable du comité sur le numérique à l'Association nationale des éditeurs de livres.
Le livre, on dit, toute la connaissance du monde est dans les livres. Donc, en fin de compte, le livre, il va probablement évoluer dans son format, mais il va rester le livre dans le sens qu'il y aura un ou des auteurs qui auront fait un travail de recherche dans le cas des livres qui sont pas de la fiction, qui sont de référence. Puis il y aura des auteurs qui auront fait du travail de création dans le cas des romans. Et ça, ça va continuer d'exister maintenant. Est-ce que ça sera encore sur du papier ou sur du papier électronique ou sur un ordinateur ou sur un téléphone intelligent? En réalité, ce qu'on pense, plusieurs de mes collègues et moi, c'est que toutes ces possibilités coexisteront.
Donc, chacun va trouver sa niche et sa part de marché éventuellement?
Oui, et puis probablement que le rôle de l'éditeur, ce sera d'être présent sur l'ensemble de ces plateformes. C'est un petit peu comme un cinéaste, en réalité. On ne lui demande plus est-ce qu'on pourra voir votre film à bord de l'avion ou est-ce qu'on pourra voir votre film à la télévision ou sur les chaînes spécialisées ou au cinéma. Son film, on peut le voir partout, puis on pourra acheter le DVD si on veut l'avoir. Donc, il va se passer, je pense, un petit peu la même chose dans le cas du livre. Pour nous, les éditeurs, ce qui est important, c'est d'être prêt et de pouvoir livrer nos contenus, nos livres, sur les différentes plateformes.
Est-ce que cette technologie du livre électronique est déjà, en quelque sorte, facilement accessible aux jeunes qui ont qui sont nés dans l'ordinateur par rapport à quelqu'un comme moi qui a la cinquantaine passée. Et chaque fois que quelque chose d'électronique arrive sur le marché, je regarde ça avec un petit peu de recul avant de sauter.
Oui, puis on se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose jusqu'au jour où on s'en sert? Puis que là, on se dit, ah ben oui, regarde, c'est vrai que je peux faire les recherches, ça va beaucoup plus vite, je peux revenir en arrière, avancer. Bon, il y a toutes sortes de fonctions qui peuvent être utiles. Je crois en effet que les plus jeunes adopteront plus rapidement ces nouvelles possibilités de lecture. En même temps, ils seront probablement plus exigeants. Ils voudront que, je ne sais pas, moi, que lorsqu'on, dans un bouquin, on leur parle d'un lieu, même un roman, on leur parle d'un lieu, ils voudront pouvoir cliquer sur le lieu pour en savoir un petit peu plus.
Avoir un hyperlien.
Oui, ou on leur parle d'un personnage historique qu'ils ne connaissent pas, ben là, ils vont vouloir cliquer sur le personnage historique en question pour savoir bon, de qui on parle ici. C'est probablement parce qu'ils ont acquis cette façon de fonctionner, même cette façon d'étudier qui n'a pas été forcément la nôtre.
Daniel Desjardins est responsable du comité sur le numérique à l'Association nationale des éditeurs de livres.
Yannick, il y a des secteurs de l'édition qui pourraient résister peut-être plus que d'autres. On n'a qu'à penser aux livres d'art, notamment en raison des reliures, des belles reliures. Mais il y a des secteurs qui iront beaucoup plus rapidement. Par exemple, le secteur scolaire. Imaginez un monde, Yannick, où dans un sac d'école, les livres seront remplacés par une clé USB ou encore un lecteur électronique. Et on écoute à nouveau Bruno Guglielminetti, notre chroniqueur numérique à Radio-Canada.
Il y a déjà des endroits sur la planète, notamment en France. Je sais que certaines commissions scolaires qui ont commencé à faire des tests et où systématiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on offre, c'est pas une ardoise électronique, là, mais c'est un petit ordinateur et on utilise aussi une clé USB, ce qui permet d'enlever le sacro-saint sac scolaire là, qui pèse des tonnes maintenant et qui vous permet de transporter tous les ouvrages que vous avez besoin, incluant les devoirs, sur la clé USB qui se branche à la maison. Évidemment, là, ça demande d'avoir un ordinateur à la maison. Pas tous en ont un, la grande majorité, mais il faut faire quand même attention à ça. On veut pas commencer à refaire des divisions sociales parce que là, on amènerait la technologie dans le décor, mais ça, c'est une chose. Mais oui, tranquillement, pas vite, ça s'en va vers ça. D'ailleurs, Jeff Bezos, qui est le grand patron d'Amazon, lors du lancement de sa nouvelle ardoise électronique, disait, moi, mon rêve, un jour, c'est d'entrer dans une classe d'école et de voir des enfants qui ont tous des ardoises. Et oui, ce serait plus facile, et oui, ça coûterait moins cher aux commissions scolaires, ultimement aux parents qui doivent payer les taxes. Et puis aussi, ça ferait du bien aux forêts d'avoir tout ça sur support électronique. Et là, on parle d'une ardoise, mais imaginez le contexte d'une classe numérique où là, vous avez autant l'écran, vous avez le fameux, derrière le professeur, là, vous avez le fameux panneau, le tableau où on écrivait avec la craie. Bon, ben de plus en plus, il y en a des écoles où on retrouve des tableaux qui sont numériques, où on peut faire des copies de ce qui était au tableau. Alors, imaginez tout un système sans fil dans une classe où tous ces appareils-là peuvent communiquer. Ça permet au professeur de savoir où l'étudiant est rendu, en train de lire, quel exercice il est en train de faire. Ça permet de garder ça en mémoire, de voir le rythme d'apprentissage, d'envoyer cette information-là aux parents qui s'intéressent à la démarche académique de l'étudiant. Il y a toute une utilisation qui peut être faite en combinant tous ces appareils-là, parce qu'une fois que vous avez ces petits bidules-là, ça peut communiquer entre eux.
On est loin de Georges Simenon qui écrivait ses textes au crayon.
On est très loin, mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut le lire maintenant là-dessus.
C'était donc Bruno Guglielminetti, chroniqueur numérique à Radio-Canada. Donc, Hugues, on parle de marché, on parle de livres électroniques, de fichiers, etc. J'imagine qu'on va bientôt parler de piratage, non?
En fait, ça a déjà commencé, Yannick, le piratage. Tous les joueurs sont touchés, aussi bien Sony que Amazon ou la Fnac en France. Et ça va également toucher tous les autres qui vont entrer sur le marché, comme éventuellement Apple ou Indigo au Canada. Eh bien, pour Laurent Rabatel, qui est éditeur de la maison Robert Je ne veux pas lire, une maison d'édition qui se spécialise dans le livre électronique, c'est un bien pour un mal.
Alors, il y a la voie officielle. La voie officielle consiste à passer sur soit le site de Robert ne veut pas lire, par exemple, et vous pouvez acheter un livre pour 4$. Vous pouvez aller sur le site de la Fnac en France, Amazon, aux États-Unis. Pour le marché canadien, ça fonctionne pas très bien. Puis, il y a la voie officieuse. La voie officieuse, c'est le piratage. C'est où, sur des torrents, qu'on appelle, et dessus, vous y trouvez la plupart des bouquins ou certains livres du domaine public. Puis c'est en train de prendre beaucoup de croissance. Aux États-Unis, on regarde sur les torrents que vous pouvez télécharger de plus en plus de livres qui viennent à peine d'être publiés en papier.
Le piratage a presque tué l'industrie du disque, en fait, parce qu'au moment où le MP3 est apparu sur le marché, il y a eu un piratage énorme qui s'est fait avant d'être récupéré par les compagnies. Est-ce qu'on se retrouve dans la même situation avec le livre?
Quand vous dites que le MP3 a tué l'industrie musicale, je ne suis pas certain. Le MP3 a permis peut-être à l'industrie musicale de changer leur modèle d'affaires, qui était qu'avant, c'était vraiment pareil que le livre aujourd'hui, c'était des distributeurs de copies plastiques. Peut-être que le MP3 a permis aux maisons musicales, aux maisons de disques, de travailler peut-être plus avec les artistes, et certains artistes même ont trouvé beaucoup plus d'indépendance. Je prends Radiohead, par exemple, qui a réussi à vendre 1 million de copies en le distribuant eux-mêmes sur Internet et en permettant aux internautes de mettre le prix qu'ils désiraient mettre sur le disque. Donc, ils ont court-circuité tous les distributeurs. Donc, je ne suis pas certain que ça ait tué l'industrie musicale. Ça a bouleversé l'industrie musicale. Dans le milieu du livre, j'espère, et je crois que ça va être le même cheminement, c'est qu'on va avoir une zone d'apprentissage qui va être un peu Far West. Il va falloir que les consommateurs s'approprient la machine, parce que ce n'est pas évident de passer d'un papier physique, un ouvrage avec le mode traditionnel, bibliothèque, librairie, etc., à juste un support virtuel dans lequel vous mettez des livres, etc.
C'était Laurent Rabatel qui est éditeur à la maison Robert, je ne veux pas lire. Hugues de Roussan, merci beaucoup.
Merci.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio tradeunioncanada.ca/lumière. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière.
Alors, si vous avez envie de profiter des beaux jours pour retomber en enfance, la Société des arts technologiques de Montréal vous propose une activité à saveur à la fois scientifique et artistique. Elle accueille, la société, un laboratoire de bio-art où un artiste et biologiste new-yorkais étudie les malformations des grenouilles. Et pour alimenter ses recherches, il part régulièrement à la pêche aux amphibiens avec des bénévoles. Une façon de sensibiliser les non-initiés au sort de ces charmantes petites bêtes. Et le fruit de leur labeur prend parfois l'allure d'une œuvre d'art. Armé de son filet, Gaël Lucia Berdou est allé se mouiller un peu.
Ah, ils sont vieux.
Ce matin-là, c'est dans l'étang d'une famille d'agriculteurs de la Montérégie que l'équipe de la Société des arts technologiques, la SAT, a installé son laboratoire itinérant. Et comme il n'y a pas d'âge pour taquiner le têtard, les 4 enfants de la maisonnée sont ravis de mettre les pieds dans l'eau. Même le chien participe à l'effort de pêche des bénévoles.
Tiens, j'en ai une. Tu veux-tu l'apporter au contenant? Ferme ta main. Oh, ouais.
Oh, non.
Ah, ben... Je m'appelle Francis Pinault. Je suis ici pour participer à un projet de recherche sur les malformations, les déformations chez la population amphibienne. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. Donc là, on vient pour faire un suivi par rapport à ce qu'on a trouvé la dernière fois. On recueille plusieurs spécimens, puis après ça, on fait des observations par rapport aux blessures ou bien aux déformations que les têtards ou que les grenouilles peuvent avoir. Oh! Presque.
Presque. L'exercice est amusant, mais l'enjeu n'a rien de comique. Les grenouilles du sud du Québec sont connues pour leur haut taux de malformation. Doigts de pied manquants, pattes atrophiées ou encore surnuméraires, la pollution a souvent été montrée du doigt. Mais l'équipe de la SAT tente de discriminer le rôle joué par les prédateurs des amphibiens. Pas toujours évident de faire la différence entre une cicatrice et un problème de développement sur une patte de grenouille.
Des fois, c'est des malformations, des fois, c'est des blessures. Donc, c'est un peu la recherche qu'on fait, c'est à savoir qu'est-ce qui est une blessure et puis qu'est-ce qui est une malformation qui pourrait être causée pour diverses raisons. Donc, on essaie de voir un peu comment cette malformation-là ou cette blessure-là, comment elle évolue avec le temps. Parce que les amphibiens ont la capacité de régénérer leurs membres, que ce soit leurs pattes avant ou arrière. Ils ont la possibilité de régénérer, mais dans certains cas, ça se produit sans aucune trace. Puis dans d'autres cas, bien, il y a des traces que l'on peut observer. Donc, c'est vraiment ça, c'est de voir, bon, mais qu'est-ce qui a été causé par un prédateur, qu'est-ce qui est causé par la pollution, puis c'est pas clair. Donc, c'est un peu un casse-tête, puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On ramasse des indices pour résoudre ce casse-tête-là.
Yes, just got a few more. How about you? My name's Brendan Bellinger, and I'm a researcher visiting here, conducting studies on local deformity ratios.
Depuis le début de l'été, Brendan Bellinger parcourt les étangs de la Montérégie avec des chercheurs en herbe. À la fois biologiste, artiste, écologiste, depuis des années, ce New-Yorkais d'origine, passionné d'amphibiens, poursuit des objectifs scientifiques et esthétiques et tente de sensibiliser le public à leur cause.
C'est un site parfait pour nous parce qu'il semble y avoir une grande population de grenouilles vertes. Nous sommes déjà venus il y a quelques semaines. C'était très sympathique. Nous avons rencontré toute la famille. Ils voulaient collaborer avec nous. C'est une belle opportunité pour eux de sortir. Nous leur avons montré comment attraper les grenouilles, comment les manipuler. Et puis, à la fin, la plus âgée des filles nous a aidés à faire l'observation. Donc, c'était une belle expérience. Ils se sont impliqués pour en savoir plus sur leur étang et sur leur propre jardin.
Les grenouilles sont un groupe fascinant à étudier. Ce sont des créatures incroyables qui étaient là avant les dinosaures. En termes évolutifs, elles sont fantastiques et en termes artistiques, elles sont une grande source d'inspiration. Je crois qu'il devrait y avoir un véritable effort mis sur ces espèces dont on sait qu'elles sont en déclin. Et les amphibiens, malheureusement, semblent être un des groupes d'animaux qui sont vraiment menacés. Et puis, j'ai toujours aimé les grenouilles. Même quand j'avais l'âge de ces enfants-là, je les ramassais. J'ai eu une passion pour la recherche biologique, qui est un moyen extraordinaire de mieux connaître les espèces avec lesquelles nous vivons.
J'ai eu plein de tétons et de grenouilles.
Wow!
Aïe, elle a l'air.
Est-ce qu'elle a des problèmes, tu penses? On dirait qu'elle a une petite tache.
Ici.
Oui!
Ah,
à moins que ce soit une
moins
feuille.
Moins de peau, quand.
Elle a perdu un petit peu de peau. Elle a une cicatrice. Ben, moi, c'est Marie-Chantal Desrosiers, dans la Frog Team. En fait, la raison pourquoi je me suis engagée, parce qu'on peut dire que c'est une forme d'engagement, c'est quand j'étais petite, j'ai toujours adoré le monde des grenouilles, puis des animaux. J'en ai encore. Je fais un peu de reproduction de poissons à titre de hobby. Là. Mais je me rends compte, à l'âge adulte, j'étais un petit peu déçue de voir que j'avais pas autant de plaisir à prendre un filet puis à aller pêcher, à aller à la chasse à la grenouille. Mais par contre, compte tenu que je fais de la création, je fais de la photo, puis depuis plusieurs années, je commençais à faire un petit peu de films d'animation pour le plaisir. Ben, je suis un peu plus dans la partie archivage. Donc, je capte différentes images, puis je fais des genres de petits films ludiques. C'est une trace de ce qui se passe, c'est de l'archivage, sauf que ça transforme un peu la réalité. Ça la rend un peu plus amusante, ça fait comme une petite caricature, un petit résumé d'une couple de minutes. Puis...
Donc, c'est surtout l'aspect artistique du projet qui t'intéresse?
Je pense que oui, je te dirais, je m'intéresse à l'aspect scientifique, sauf que ce qui me captive, moi, à titre de bénévole, c'est davantage la partie artistique. Donc, je viens prendre une forme de témoin de l'événement.
Ouais. Ça en a plein?
Hey, let's put them all in the containers. If you want to try to put them in, maybe this one's easier. What we're going to do now...
Après la partie de pêche, commencent les tâches plus fastidieuses. Observer sous toutes leurs coutures chaque têtard, chaque grenouille. Francis Pinault. Okay.
Donc c'est ça, on regarde chaque spécimen qu'on a recueilli dans l'étang, puis on prend des notes pour savoir si on soit une blessure ou bien une déformité. Puis vraiment, on note chaque spécimen, que ce soit une blessure aux yeux, au crâne, à l'abdomen, aux jambes, avant ou arrière, s'ils ont des égratignures. Donc, c'est ça. C'est pour faire une évaluation de la santé des grenouilles de ce temps-ci. Donc, Brandon les observe avec ses lunettes spéciales et puis moi, je les note ici dans le tableau.
Est-ce que vous en trouvez beaucoup qui ont des déformités ou des blessures?
La dernière fois qu'on est venu ici, c'était 3.4% du total, donc il n'y en avait pas tant que ça.
Okay. Here we go. So, there's one that's got a forelimb toe injury. I don't know if you want to use the magnifying glass. You can see just a little bit of the exposed tissue. So something's nipped off that.
Donc on en a au moins une qui s'en va au laboratoire.
Ouais. Oui, il y en a une qui s'en va au laboratoire, un pied qui a été déformé. Donc, on va voir là, ce qui, on va essayer d'étudier un petit peu la cause de ça.
One of the things we've done here at the laboratory is set up a kind of natural ecosystems just to see the way.
Dans son laboratoire ouvert au public au sous-sol de la Société des arts technologiques à Montréal, Brandon Ballanger recrée dans des aquariums des écosystèmes simplifiés. Il provoque des rencontres entre des nymphes de libellules et les têtards dont elles raffolent.
And what we want to see is how these dragonfly nymphs injure tadpoles, if they do in fact injure tadpoles.
Ce qu'on veut voir, c'est comment ces nymphes de libellules blessent les têtards, si en fait elles les blessent. Les têtards ont une protection naturelle. Ils sécrètent un produit chimique qui les rend peu appétissants. Mais on ne sait pas bien s'il est dispersé sur tout leur corps. Et ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est que sur le terrain, les endroits où il y a un haut taux de difformité ont aussi beaucoup de libellules. Et dans les aquariums, les mêmes espèces de libellules avec les mêmes têtards causent des blessures et ensuite des difformités aux membres. Mais ce qu'on n'a pas vu, ce sont des nymphes qui mangent toutes leurs proies. Elles semblent vraiment aimer les pattes en développement. Et ça pourrait être pour plusieurs raisons. Peut-être que les pattes sont plus riches, peut-être que quand elles se développent, elles ont meilleur goût, ou encore ça pourrait être une adaptation. La libellule, quand elle attrape un têtard, essaie peut-être de le garder le moins longtemps possible parce qu'elle est elle-même vulnérable pendant qu'elle mange. Donc, les pattes sont peut-être tout simplement les parties les plus faciles à grignoter.
So it might be that the limbs are just easier for them to remove. We should start to do the, yeah, maybe the observations too.
C'est aussi dans ce laboratoire que Brandon Ballanger mène une partie de son travail d'artiste. Avec des produits chimiques, les grenouilles deviennent transparentes, puis diverses teintures viennent faire ressortir des parties de leur corps. Une fois scannées, les os deviennent rouges, les articulations bleues, etc. Sur ces images de squelettes translucides et colorés, la cinquième patte de la grenouille, la faute à un parasite, frappe l'imaginaire.
I do it from the artist side to talk about deformed frogs because it's less exploitive too.
Je fais cette démarche artistique parce qu'elle est moins malsaine et moins choquante. Si vous créez une image agrandie d'une grenouille difforme, c'est horrifiant et ce n'est pas mon but. Je n'aime pas l'idée d'un cabinet des horreurs qui ferait peur aux gens. Ce que je veux faire, c'est invoquer leur sympathie, qu'ils regardent de plus près et se demandent ce qui arrive à ces animaux.
Just trying to get people to look a little bit more and to start to ask questions about what could be happening with these animals.
Et chaque image a un seul exemplaire, un peu pour rappeler la fragilité de la vie, que chaque individu est unique.
Each individual has one life, and so each frog has one print, and that's it.
Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui lui dit. dit en tremblant.
Brandon Ballanger, bioartiste en résidence à la Société des arts technologiques de Montréal. Les résultats scientifiques et artistiques de l'expérience seront présentés au public fin septembre. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, un livre sur l'histoire du cerveau, de notre compréhension du cerveau, de l'Antiquité jusqu'à l'âge actuel, des neurosciences.
Les neurosciences contemporaines, en fait, évidemment, c'est apparu cette notion un peu vague, hein, c'est cette science oui. plurielle, 1950 à peu près les débuts, et c'est une discipline qui a connu une évolution absolument remarquable. On a rarement vu ça dans l'histoire des sciences, qu'une discipline prenne autant d'envergure. En fait, les neurosciences sont en train ont commencé à envahir quasiment tous les domaines du savoir humain.
Et c'est le moment du courrier des auditeurs. La question cette semaine porte sur l'apparition dans le ciel d'un nouveau type de nuage.
Ma question concerne la météorologie. La voici. Depuis quelques années, une nouvelle sorte de nuage nommée Asperatus a fait son apparition dans cette science. Pourriez-vous élaborer le sujet? Merci.
Alors, la question a été posée par Yvan Jobin de Rimouski. Le nuage dont il est question, donc l'Asperatus, fait l'objet d'une demande de classification officielle déposée par la Société royale de météorologie en Angleterre auprès de l'Organisation météorologique mondiale à Genève, qui a toute autorité en la matière, bien sûr. Alors, pour répondre à la question de notre auditeur, Hugues de Roussan a joint à Paris Jean-Pierre Chalon, qui est conseiller scientifique auprès de Météo France.
On classe les nuages depuis pas mal de temps et en particulier l'Organisation météorologique mondiale a publié un atlas international des nuages en 1956 qui est basé sur un certain nombre de catégories. Hein, c'est-à-dire on classe les nuages en fonction de leur altitude, de leur forme, de leur aspect. Donc dans cette classification on trouve d'abord 10 genres principaux. Ensuite en fonction de ces genres principaux, on va donner aussi une information sur les caractéristiques de forme, de dimension, de structure interne. Et à ce moment-là, on a 14 classifications qui sont les espèces. Puis ensuite, on a la possibilité de les classer aussi en variétés pour préciser leur aspect visuel, est-ce qu'ils sont transparents, la façon dont ils sont disposés. Et enfin, on donne aussi des informations supplémentaires qu'on appelle les particularités pour désigner les formes ou les appendices. Si bien qu'on peut arriver à peut-être 50 000 possibilités de description différentes pour les nuages.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce nuage Asperatus pour lequel il y a une demande d'homologation à l'Organisation météorologique mondiale?
C'est quand même assez difficile, si vous voulez, quand on regarde les photos qui sont envoyées, de bien définir le type de nuage que c'est, parce que les photos sont toujours prises dans des conditions très particulières, avec des soleils rasants qui donnent des impressions visuelles qui ne sont pas toujours naturelles. Et puis on se demande si ces photos n'ont pas été prises aussi avec des filtres. Hein. Donc ce que je vais dire, c'est quand même parfois assez difficile simplement sur des photos. Il faudrait pouvoir observer les nuages dans la réalité. Mais globalement, les nuages que l'on voit là, si on parle de genre, hein, c'est la catégorie principale, on voit que ce sont des nuages qui apparaissent plutôt à des altitudes moyennes et on doit pouvoir appeler ça des altocumulus. Ils sont relativement perturbés, on pourrait dire qu'ils sont de type insinus pour montrer qu'ils ont des ondulations. Et puis on voit aussi des parties pendantes qui montrent qu'ils doivent avoir une particularité de type mama. Donc mama, ça veut dire nuage avec des mamelles, hein, dans lesquelles il y a des précipitations qui commencent à tomber mais qui n'arrivent pas jusqu'au sol parce que l'air dessous est très très sec. Puis peut-être qu'il y a une particularité tuba, c'est-à-dire qu'on voit effectivement sur certains des nuages des genres de cônes inversés qui tombent des nuages et qui représentent comme un début, si vous voulez, un peu de tornade.
Est-ce qu'on a des informations quant à la composition des nuages, les genres de particules qu'on peut y retrouver, même des particules de pollution?
Disons, les particules de pollution ne jouent pas vraiment sur la structure visuelle du nuage. Hein. Elle joue plutôt sur le nombre de gouttelettes et leurs dimensions. Sachant que plus l'air est pollué, plus on va avoir de gouttelettes, et donc plus les gouttelettes vont être petites. Mmh. Donc, en principe, une pollution type pollution industrielle, une forte pollution, aurait plutôt tendance à donner des nuages dans lesquels les précipitations ont du mal un peu à se développer.
Quand on fait une demande comme ça pour reconnaître un nuage, est-ce que c'est un peu comme dans les vins avec des appellations contrôlées? Est-ce que c'est aussi strict et sérieux que ça?
C'est très strict et très sérieux. Hein. Je vous dis, l'Atlas international date de 1956. Depuis, on ne l'a pas modifié. Alors, ceci dit, je ne prétends pas qu'on ne puisse pas apporter une modification dans cet atlas pour tenir compte de ce type de nuage un peu plus perturbé que les autres. Mais essentiellement, on ne peut pas dire que ce sera une modification ni des genres, ni des espèces, ni des variétés. Tout au plus, ça pourrait être un ajout, un apport dans les particularités supplémentaires. Hein, sachant que les particularités, ça désigne les formes, les appendices attenants. Et donc, on pourrait très bien avoir une particularité pour les nuages de type altocumulus, qui serait une particularité asperatus, qui veut dire brutal, qui veut dire rugueux, pour montrer que c'est un nuage particulièrement perturbé, quoi.
Donc on parlerait plutôt de forme que de fond.
On parlerait plutôt de forme, oui, que de fond.
Hugues de Roussan s'entretenait avec Jean-Pierre Chalon, conseiller scientifique auprès de Météo France. Alors, pour nous poser vos questions, vous pouvez nous téléphoner en appelant de la région de Montréal le 514-597-7166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. Vous pouvez aussi nous écrire à lumière@radio-canada.ca. Et là-dessus, on passe à la chronique en rediffusion. La chronique des années-lumière avec cette semaine Marie-Dominique Beaulieu. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin au centre hospitalier, en médecine familiale au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Pour parler aujourd'hui de médicaments et d'enfants. Hein, on donne des médicaments à des enfants, on se demande toujours si on fait bien. Et là, il y a des études qui ont été publiées, une étude qui a été publiée récemment qui dit deux choses. D'abord, les enfants seraient deux fois plus sensibles que les adultes à l'effet placebo. Puis deuxièmement, et ça peut inquiéter les parents, ça, les indications pour les médicaments pour enfants sont souvent des extrapolations faites à partir de ce qu'on a étudié chez les adultes. Ça peut inquiéter, ça.
Alors, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de cela. Un sujet dont on ne parle pas souvent. D'abord, je pense que c'est important de parler, effectivement, avant de parler de l'étude elle-même et ce qu'elle veut dire, de ce problème de la recherche clinique et du développement des médicaments chez les enfants. Il est vrai, effectivement, que pour certains médicaments, pas nécessairement pour tout, les dosages pédiatriques sont parfois plus estimés à partir des dosages des adultes, sans que toujours ce soit testé de la même façon.
On dit un enfant pèse 4 fois moins lourd qu'un adulte, donc il aura 4 fois moins de principes actifs, c'est ça?
Oui, à peu près, un peu plus raffiné. Mais en fait, justement, c'est problématique, cette approche-là, et déjà la recherche pose des défis sur le plan vraiment médical. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas seulement une question de poids.
Ce que je viens de dire il y a 2 secondes.
Voilà, ouais, c'est exact. Ça. Deux fois plus petit, 3 fois plus petit.
Oui.
Mais en fait, les métabolismes qui nous permettent d'éliminer les médicaments, notamment les métabolismes du rein et du foie, ne sont pas les mêmes chez les enfants. Et même, ça peut avoir l'air paradoxal, mais en fait, les métabolismes hépatiques sont plus rapides. Et des fois, les enfants vont métaboliser plus vite... Plus ils sont jeunes.
Leur donner plus de médicaments dans certains cas.
Oui, ou par kilo, ou encore, ou des fois, ça crée des métabolites toxiques plus rapidement. Donc, un problème médical. Réel médical. C'est sûr aussi des problèmes méthodologiques. Vous savez, en recherche, on aime ça quand c'est homogène. Les gens, c'est des pommes avec des pommes, les oranges avec des oranges. Donc, dans des populations pédiatriques, on a des enfants qui peuvent avoir entre 6 mois et 5 ans et 8 ans. Ça pose parfois des problèmes méthodologiques de taille d'échantillon. Il faut beaucoup d'enfants. Faut faire des sous-analyses selon l'âge. Et donc, on est dans des situations...
C'est pas facile. C'est
plus
pas...
difficile, qui nécessitent des fois un nombre plus important de patients. Et au niveau de l'éthique, c'est clair qu'au niveau éthique, on est quand même tout le monde plus prudent pour les enfants. C'est un organisme en développement, donc on n'aime pas faire trop de recherche sans trop savoir
évidemment. Et puis il y a tout le problème du consentement.
Le consentement.
Chez l'enfant.
Chez l'enfant, donc ce sont les parents. Donc, il y a un réel problème et des réels enjeux. Ceci étant dit, je pense intéressant de le noter, c'est reconnu comme quelque chose d'important et plusieurs pays, dont notamment les États-Unis et l'Europe, pour l'industrie pharmaceutique, vous comprenez, c'est un casse-tête, hein?
Oui.
Bon.
Oui.
Alors, ont donc créé des programmes incitatifs face à l'industrie pharmaceutique pour les aider, surtout sur les brevets, qui leur permet de continuer plus longtemps, vraiment à s'impliquer et à vraiment faire de la recherche chez les enfants pour les problèmes de santé.
Donc, effectivement, de ce côté-là, il y a problème, il y a question et on n'est pas toujours parfait.
Exact.
C'est exact. Puis il y a aussi l'effet placebo dont on vient de parler. Les enfants, deux fois plus sensibles à l'effet placebo, ils sont plus suggestibles.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un peu la réaction qu'on a. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça interpellant et intéressant. Donc, encore un petit point sur l'effet placebo et les placebos. Oui. C'est une chose, les placebos en recherche et la notion d'effet placebo. Donc, quand on veut établir l'efficacité d'un médicament, on essaie de le comparer toujours à un placebo, c'est-à-dire...
Un non-médicament, oui, c'est
ça. Oui, en fait, on veut qu'il y ait l'action de prendre une pilule comme le patient qui est dans le projet de recherche avec la vraie pilule. Oui. Sans ça, tout de suite, les patients savent qu'ils ne sont pas dans le projet. Donc, on leur donne une pilule qui est un placebo, qui est du sucre, qui n'a rien dedans, pour voir la différence. Et donc, on est toujours intéressé dans les études à regarder comment évoluent les patients sous placebo. Mm-hmm. Et donc, c'est ça dans cette étude-là. Ils ont donc comparé dans le traitement de l'épilepsie réfractaire. Oui. Donc, on parle d'un problème de santé très, j'aurais le goût de dire, là, médical.
Hein, oui.
Dans des choses vraiment quand même qui ne sont pas peut-être autant suggestibles, quoique de rapporter, d'observer la crise d'épilepsie, des fois, ça passe par des tiers avec les enfants. Oui. Mais donc, ils ont comparé 5 études faites chez des enfants avec 25 études faites chez des adultes avec toutes sortes de médicaments anti-épileptiques.
Oui.
Et ce qu'ils ont donc vu, c'est que dans les deux, les enfants et les adultes, le même nombre de patients répondaient aux médicaments actifs.
Oui.
D'accord? Mais deux fois plus d'enfants se sont améliorés spontanément, donc en prenant le placebo. Donc, dans les groupes d'enfants sous placebo, 20 % des enfants ont améliorer de 50 % leur crise d'épilepsie en étant sous le placebo, alors que c'est arrivé dans 10 % des cas chez les adultes. Ce qui les font conclure que les enfants sont deux fois plus susceptibles à l'effet placebo, mais en fait...
Ça pourrait être aussi
à l'évolution naturelle de leur maladie.
Oui, c'est ça.
Que la maladie n'était pas la même que celle des adultes qui étaient étudiés. Donc, on voit qu'il y a une petite subtilité, il y a eu un titre...
Et il faut prendre ça donc avec quand même un certain nombre de pincettes.
Voilà, donc c'est un titre un petit peu accrocheur, là. Il faut quand même comprendre...
Mais ça reste important quand même de souligner ça, oui. Hein?
Oui, et c'est important pour les chercheurs. Je dirais plus que pour les parents.
Oui.
Parce que pour planifier une étude, on doit être capable de savoir un petit peu comment évoluent les gens lorsqu'ils ne sont pas traités, donc ceux qui seront sous placebo, et pour un peu calculer nos tailles d'échantillons pour avoir...
C'est-à-dire combien de personnes on devra traiter dans chaque groupe.
Exactement, pour voir une différence qui sera, je dirais, significative et qui nous convaincra. Alors, si chez les enfants, cet effet placebo, cette réponse, appelons ça comme ça, j'aime mieux ça, cette réponse au placebo est plus fréquente, et ça a été observé aussi dans d'autres maladies chez les enfants.
Il faudra faire des groupes plus...
Pour les chercheurs, ça a un impact, ça veut dire qu'ils doivent faire des groupes un petit peu plus gros. Et qui dit des groupes, donc une taille d'échantillon un peu plus importante, donc des études plus dispendieuses et aussi
plus d'enfants. Et aussi plus de problèmes.
En tout cas, plus de considérations.
Oui, éthique. Voilà. Parce que faire de la recherche avec des enfants, c'est pas facile.
C'est plus difficile. Donc, c'est une étude importante d'un point de vue de la recherche. Je pense pas que ça change quoi que ce soit là, pour les parents et les enfants actuellement là, dans leur vie de tous les jours.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Dominique.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est tout pour cette première heure. 2 secondes pour vous inviter à regarder ce soir Découverte à la télévision de Radio-Canada à 18h30. Entre autres reportages, Les Lions Blancs et À la recherche du bateau de Franklin. Mais d'ici là, vous restez avec nous pour la deuxième heure des Années-Lumière. Les Années-Lumière, deuxième heure. deuxième heure, deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique. Yannick Villedieu et l'équipe toujours pour vous le présenter. Ce magazine qui va commencer donc avec Gaëlle Lucia Berdou qui nous présente un nouvel épisode de notre série d'été sur les stars des étoiles. Après le petit journal de la science, nous vous présentons en rediffusion une grande entrevue de Chantal Srivastava avec Michel A. Bouchard sur le thème « Guerre et environnement ». Et je reçois, pour terminer l'émission, l'auteur de la semaine, le docteur André Parent, chercheur en neurosciences à l'Université Laval, à Québec. Son livre s'intitule « Histoire du cerveau ». Il est publié aux presses de l'Université Laval. Mais d'abord, notre série d'été. Les stars des étoiles. Alors, on est toujours en pleine année mondiale de l'astronomie et pour marquer cet événement qui souligne le 400e anniversaire des premières observations de Galilée avec sa lunette, je vous le rappelle, eh bien pour marquer cet événement, nous vous présentons tout l'été une série de portraits d'autres grands astronomes, autres que Galilée, qui ont façonné notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, Edmond Halley, qui a donné son nom à la plus célèbre des comètes, on a pu la voir dans nos cieux pour la dernière fois en 1986, et elle ne repassera pas par chez nous avant 2061. Nous y serons certainement, et c'est justement ça, le génie de Halley. Il avait compris que les comètes suivaient des orbites, et il avait prédit avec justesse le retour de cette fameuse comète dite de Halley. Alors pour parler de ces découvertes et de celles qui ont suivi les travaux de Halley, Gaëlle Lucia Berdou a contacté Annie Chantal Levasseur-Regour, astrophysicienne, spécialiste des comètes et présidente cette année de l'année mondiale de l'astronomie en France. Elle l'a jointe dans nos studios de Paris.
Annie Chantal Levasseur-Regour, bonjour.
Bonjour.
Madame Levasseur-Regour, on connaît bien le nom de Halley, bien sûr, grâce à la comète qui porte son nom. Mais qui était Edmond Halley?
Eh bien, Halley, c'était un de ces savants du XVIIe siècle, touchant à beaucoup de choses et très curieux, et qui était en même temps un explorateur. Et il a eu l'opportunité d'observer la comète qui porte désormais son nom en 1682, de comparer avec des observations plus anciennes, de réfléchir sur cette thématique-là. En plus, il allait souvent faire des expéditions dans l'hémisphère sud, donc je suppose qu'il avait du temps pour réfléchir à bord de lors de ses longs voyages. Et il a émis l'idée que cette comète, que les trois comètes sur lesquelles il s'était penché, c'est une seule et même comète qui devait revenir périodiquement près du Soleil et donc de la Terre. Et ce qu'il y a eu de formidable, c'est qu'il comptait parmi ses amis Newton, qui était un personnage très différent de lui. Halley était quelqu'un de très extraverti, de très... de bougeant énormément, alors que Newton, au contraire, était très introverti, très discret, très renfermé un petit peu sur lui-même, mais ils se respectaient profondément tous les deux, et Halley a parlé de ses travaux à Newton. Newton lui a immédiatement suggéré que ça avait l'air de coller avec la théorie qu'il était en train de développer sur la gravitation, et qu'il n'avait pas du tout publié, et c'est Halley qui lui a permis de publier ses travaux, les Principia Mathematica de Newton.
Et c'est assez surprenant parce qu'en fait, cette comète porte son nom, mais il ne l'a pas découverte. Elle avait été observée bien avant son temps.
Elle a été observée bien avant son temps. On en trouve le témoignage, eh bien, par exemple, sur la tapisserie de la reine Mathilde au Moyen-Âge, sur l'adoration des mages de Giotto un peu plus tard dans le Moyen-Âge. On en trouve aussi la trace dans des chroniques chinoises d'avant notre ère. Et on comprend à partir du repérage... du ciel qui était utilisé dans ces chroniques chinoises, qu'il s'agissait déjà, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, de la comète de Halley. Mais les comètes ne portent pas nécessairement le nom de la première personne qui les découvre.
Elles peuvent aussi, c'est le cas de la comète de Halley, c'est le cas de la comète Encke, porter le nom de la première personne qui a su déterminer leur orbite.
Donc, il n'avait pas découvert cette comète, il a prédit son retour, mais il n'était même pas là pour recueillir le triomphe que ça a provoqué.
Précisément, puisque cette comète a quelques perturbations orbitales près, repasse tous les 75 ans, et bien 75 ans plus tard, Halley était mort. Ce qui peut être important de dire, c'est que, donc, à ce moment-là, on était en plein dans le 18e siècle, le calcul différentiel avait avancé, et il y a eu quelqu'un comme Madame Le Pôte, en France, qui s'est lancé dans des calculs absolument épouvantables pour tenir compte des perturbations orbitales à laquelle cette comète était soumise, et perturbations des planètes, en particulier de Jupiter et de Saturne, les deux planètes géantes, pour prédire son retour à un mois près, ce qui, quand on pense qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de moyens de calcul sophistiqués, était absolument remarquable, et ça a été vraiment le triomphe posthume de Halley, puisque la prévision était vérifiée.
Et cette découverte a permis de démystifier véritablement les comètes parce que jusque-là, en général, on les voyait comme des annonciatrices de grands malheurs.
Un petit peu, mais les comètes font toujours rêver. Je dirais volontiers, elles font un peu moins rêver aujourd'hui où nous sommes complètement baignés par de la pollution lumineuse. Mais à l'époque où il n'y avait pas de lumière parasite, une comète avec ses queues très brillantes couvrant, je ne sais pas, un tiers, un quart du ciel, ça pouvait être follement impressionnant. Et en 1910, la comète de Halley, qui repassait à proximité de la Terre, a entraîné beaucoup d'agitation, on dirait aujourd'hui médiatique, parce qu'il était dit que la queue de la comète allait frôler la Terre et, ma foi, ce serait peut-être la fin du monde ou toute autre catastrophe du même genre.
Donc, en 1758, cette comète de Halley est revenue telle que Halley l'avait prédit. Et depuis, on a cessé de l'étudier, de la regarder, d'étudier son noyau, sa chevelure. On a envoyé des sondes pour la regarder, notamment en 1986, quand elle est repassée et qu'on a pu la voir de la Terre à l'œil nu. Donc, on a découvert énormément de choses depuis Halley sur ces comètes.
Oui, effectivement, en 1986, il y a eu en fait toute une flottille de sondes qui sont allées se rapprocher de la comète de Halley. Historiquement, je crois que ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y avait deux sondes à l'époque soviétique qui ont aidé la sonde européenne, grâce à un repérage américain, à localiser le cœur de la comète. Et c'est en 1986 que, pour la première fois, on a pu voir ce qu'on appelle le noyau d'une comète, c'est-à-dire un bloc de roche, de poussière plutôt, et de glace, qui est assez petit, qui a une dimension de l'ordre de quelques kilomètres, et qui est vraiment la partie solide de la comète, d'où vont pouvoir s'échapper, quand la comète se rapproche du Soleil, des gaz et des poussières.
Qui forment la fameuse chevelure. C'est ça qui
s'enflamme. La poussière et ensuite les queues qui sont très spectaculaires. Et ce noyau, on imaginait un petit peu qu'il existait en ayant constaté que précisément les orbites des comètes subissaient non seulement des perturbations gravitationnelles, mais d'autres perturbations qui avaient été appelées non gravitationnelles et qui proviennent simplement d'un effet de réaction, comme un petit moteur à réaction, dans la direction opposée à celle d'où s'échappent du noyau des gaz et puis des poussières. Et la sonde européenne, qui s'appelle Giotto, Giotto du nom de Giotto di Bondone, qui dans sa fresque de Padoue a fait une première représentation picturale de la comète de Halley, eh bien la sonde Giotto, non seulement a démontré vraiment par image l'existence de ce noyau, mais nous a appris, et ça ce fut vraiment une très grande surprise, que les poussières cométaires qu'on imaginait un petit peu être essentiellement des silicates comme des petits grains de sable étaient aussi très riches en composés carbonés, en composés organiques, et étaient extrêmement floconneuses, extrêmement poreuses.
Et qu'est-ce qu'on peut apprendre maintenant qu'on connaît un peu mieux leur composition de l'origine de ces comètes?
Alors, l'origine de ces comètes, c'est vraiment ce qui nous interpelle, parce que l'origine des comètes, ça veut dire aussi en connaître plus sur l'origine du système solaire, comment les petits corps, les planétésimales, c'est-à-dire les comètes, qui se sont formés il y a environ 4,6 milliards d'années, dans quelles conditions ils se sont accrétés. Et puis aussi, on peut rêver un petit peu, c'est peut-être aussi imaginer ce que a pu être l'origine de la vie sur Terre et sur les planètes telluriques, puisqu'on se pose la question de savoir si ces poussières cométaires, qui sont très riches, comme je disais, en composés carbonés, qui ont pu, du fait de leur structure, descendre sans trop perdre ces composés dans l'atmosphère de la Terre, mais aussi dans l'atmosphère d'autres planètes comme Mars ou Vénus, eh bien, ces petites poussières ont peut-être amené les briques qui étaient nécessaires pour la formation des premières cellules vivantes. Je ne parle pas d'apport de vie par ces poussières, mais apport simplement de molécules carbonées complexes.
De ce qui est nécessaire à la vie.
Voilà.
Madame Levasseur-Regourd, vous êtes impliquée aussi à l'Agence spatiale européenne dans la mission Rosetta, qui est une sonde qui a été lancée en 2004, qui elle aussi a pour but de nous en apprendre justement sur les comètes. Alors, de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, précisément, tout est dans le nom de Rosetta, c'est-à-dire Rosetta Stone, hein, ou pierre de Rosette, hein, donc pierre de Rosette pour déchiffrer nos origines. Et cette nouvelle mission cométaire de l'Agence spatiale européenne se propose cette fois-ci de faire quelque chose de techniquement assez compliqué, non pas simplement survoler une comète pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes.
Ce qu'ont fait les sondes précédentes.
Ce qu'ont fait toutes les sondes précédentes, qu'elles soient européennes, soviétiques, américaines ou japonaises, mais d'aller faire un rendez-vous avec une comète pour la suivre sur son orbite, se mettre en orbite autour du noyau cométaire et aussi, si tout se passe bien, poser un petit module sur le sol de ce noyau, sur la surface de ce noyau cométaire.
C'est vraiment un exploit technique?
C'est un véritable exploit technique et en particulier, ceci nous ramène à aller en quelque sorte au niveau de tout ce qui est le calcul des trajectoires et des orbites. Puisque pour faire un tel rendez-vous, non seulement il faut connaître parfaitement la position de la comète à chaque instant, mais il faut faire un petit peu de billard planétaire, c'est-à-dire pour arriver à intercepter cette comète très loin du Soleil, parce qu'à ce moment-là, la comète va avoir une vitesse très faible, et la sonde peut aussi avoir une vitesse très faible. Les deux vitesses relatives vont pouvoir être quasiment nulles. Eh bien, pour arriver à monter ainsi à la rencontre de la comète loin du Soleil, à son aphélie, il a fallu faire plusieurs assistances gravitationnelles de Mars et de la Terre. La troisième et dernière assistance gravitationnelle avec la Terre aura lieu à l'automne, et à ce moment-là, la sonde sera enfin sur son orbite définitive, et c'est parce qu'elle aura utiliser cet effet de fronde des planètes à plusieurs reprises que le voyage aura été aussi long, puisque partie, comme vous le disiez, en 2004, elle va arriver en 2014.
Alors, elle va retrouver la comète qu'elle poursuit?
Elle va retrouver cette comète. En route, tout de même, elle n'aura pas totalement perdu son temps. Il s'en faut beaucoup, puisqu'on a déjà survolé en septembre dernier un astéroïde absolument unique, incroyable, qui s'appelle Steins. L'année prochaine, on va survoler un astéroïde Lutetia. Et oui, c'est en 2014 qu'enfin, si tout se passe bien, on arrivera à proximité de la comète Churyumov-Gerasimenko.
Et pourquoi celle-là? Pourquoi avoir choisi cette comète-là?
Eh bien, en fait, pour faire un rendez-vous avec une comète, comme je vous le disais, on veut avoir une vitesse relative à peu près nulle. Il faut aller la chercher très loin. Et il se trouve qu'il y a toute une collection de comètes qu'on appelle de façon assez artificielle de la famille de Jupiter, qui se trouvent à avoir leur aphélie à peu près au niveau de l'orbite de Jupiter, à 5 fois la distance de la Terre au Soleil.
Donc l'aphélie étant le point le plus éloigné du Soleil dans l'orbite de cette comète.
Voilà. Et parmi toutes ces comètes qui ont leur point le plus éloigné à peu près au niveau de l'orbite de Jupiter, il y en a quelques-unes qui en plus sont pratiquement dans le plan de l'écliptique, le plan orbital de la Terre. Alors évidemment, pour ces techniquement beaucoup plus simple, enfin c'est faisable avec l'état des lanceurs actuels, sinon ce ne serait pas faisable de faire un rendez-vous uniquement pour une comète de cette famille. Et chaque année, parce qu'il y a toujours les aléas pour les lancements des missions spatiales, chaque année pratiquement il y a la possibilité d'avoir une comète de la famille de Jupiter cible, et avec le lancement en 2004, on tombait nécessairement sur cette comète qui a été découverte il y a une quarantaine d'années maintenant par des collègues ukrainiens et qui porte ce joli nom de Churyumov-Gerasimenko.
Et ça c'est en 2014, et si jamais on veut attendre un peu plus longtemps, on pourra voir la comète de Halley de la Terre à l'œil nu en...
Oh, ça, c'est affreusement longtemps, parce que la prochaine fois que la comète de Halley va revenir, elle ne sera pas tellement visible à l'œil nu. La fois suivante, donc vous voyez, là, on a 150 ans, 200 ans, elle ne sera pas encore visible à l'œil nu. Alors, ce ne sera pas dans nos générations qu'on reverra la comète de Halley, mais n'oublions pas que de temps en temps, il y a des comètes nouvelles, exceptionnelles, comme on a eu il y a maintenant une douzaine d'années, la comète Hale-Bopp, et on en aura peut-être de nouvelles, des comètes nouvelles vers lesquelles, d'ailleurs, il est très difficile de lancer des sondes, puisque évidemment elles arrivent brutalement dans le système solaire interne et on n'a pas nécessairement le temps de préparer un lancement avec toutes les assistances gravitationnelles pour aller les récupérer.
Merci beaucoup, Madame Levasseur-Regaud.
Au revoir.
Gaëlle Lucia Berdou s'entretenait avec Annie Chantal Levasseur-Regaud, présidente de l'année mondiale d'astronomie en France, qui nous parlait donc d'Edmond Halley. La semaine prochaine, dernier épisode de notre série d'été Les stars des étoiles, je vous parle de nul autre que Hubble, pas le télescope, l'astronome qui lui a donné son nom.
Plus un pays devient riche, moins il fait d'enfants. Cette règle démographique avait jusqu'à maintenant quasi force de loi, sauf pour les États-Unis, qui étaient le seul pays riche à ne pas faire comme les autres. Eh bien, il semble que cela ne tient plus. En tout cas, selon une étude de l'Université de Pennsylvanie, dont les résultats sont parus dans la revue Nature. Cette étude a comparé le taux de fertilité des 107 pays les plus riches entre 1975 et 2000. Conclusion: passé un certain stade de développement économique, le taux de fécondité se remet à augmenter. L'étude montre qu'il y a un léger renversement à la hausse de la courbe des naissances après les années 80, mais sans pour autant pouvoir l'expliquer. À long terme, si la tendance se poursuit, cela pourrait se traduire par une stabilisation et même une légère croissance de la population des pays riches. Mais cela ne changera pas toutefois les prévisions démographiques de 9 milliards d'habitants en 2050, la croissance de la population mondiale provenant surtout des pays en voie de développement.
Un ingénieur de l'université Stanford aux États-Unis, Stephen Quake, vient de séquencer son propre génome avec une machine de son invention, et cela à un coût défiant toute concurrence, $50 000. Il en avait coûté au moins 5 fois plus avec les technologies conventionnelles pour séquencer le génome de Craig Venter, un pionnier du domaine, ou celui de James Watson, le célèbre co-découvreur de la structure de l'ADN, la double hélice. Et on estime que la fameuse première séquence du génome humain terminée en 2003 avait coûté 500 millions de dollars, soit 10 000 fois plus qu'avec la machine de Stephen Quake. L'objectif de séquencer le génome d'un individu pour seulement 1 000 $ pourrait donc être atteint dans 2 ou 3 ans, estime l'inventeur de Stanford. Mais cela ne veut pas dire que ce sera d'une très grande utilité médicale. Après tous les espoirs suscités par le déchiffrage du génome humain, les chercheurs admettent que les maladies les plus courantes, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'Alzheimer, sont trop complexes pour être expliquées par seulement quelques variations dans quelques gènes.
Les saumons atlantiques seraient-ils de grands romantiques? En tout cas, près d'un millier d'entre eux ont visité Paris cette année. C'est ce qu'avance la Fédération française de la pêche qui se félicite du retour de l'espèce dans la Seine. Les saumons atlantiques avaient déserté le fleuve depuis près de 100 ans à cause de la pollution et de la construction de barrages. Mais ils sont de retour, vraisemblablement grâce à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et le saumon n'est pas le seul à apprécier. Il y a 10 ans, on ne trouvait que 4 espèces de poissons sous les ponts de Paris, alors qu'aujourd'hui, elles sont plus d'une trentaine. Mais si le sort des saumons s'améliore dans les cours d'eau français, il est plus préoccupant de notre côté de l'hémisphère. Sur la côte pacifique, les saumons sockeye, qui remontent habituellement par millions la rivière Fraser à cette époque de l'année, manquent à l'appel. Au lieu des quelques 10 à 13 millions de poissons attendus par les pêcheurs, leur nombre est estimé à moins de 2 millions. Les chercheurs sont perplexes, mais certains soupçonnent les saumons d'aquaculture d'avoir transmis des parasites à leurs congénères sauvages.
Grande rencontre des années-lumière maintenant, une rencontre avec Michel A. Bouchard, conseiller principal de la mission d'étude des effets environnementaux post-conflit au Congo. Michel A. Bouchard travaille entre autres au Centre d'évaluation environnementale du Programme des Nations Unies pour l'environnement, un centre qui est rattaché à l'Université McGill. Voici en rediffusion l'entretien qu'il a eu avec Chantal Srivastava.
Quand le respect de principes humains engendre des guerres, je pense que la préoccupation principale doit être la misère humaine. Et il ne saurait être question de privilégier l'environnement au détriment de la vie humaine. Il n'est pas question de ça du tout, du tout, du tout. Cependant, nous savons que l'environnement, c'est la clé de la reconstruction, c'est la clé de l'après-conflit, c'est la clé de la paix durable après le conflit. De sorte que se préoccuper de l'environnement, si vous voulez, c'est se préoccuper de la vie humaine par la suite, sur le long terme. De tout temps, les guerriers ont cherché à nuire à l'ennemi de toutes sortes de façons. Hein. Pendant, il y a des guerres antiques dans lesquelles on jetait les cadavres dans le puits de l'ennemi pour empoisonner l'eau. Mais le cas le classique, c'est évidemment les Romains qui ont salé le pourtour de la ville de Carthage de façon à s'assurer qu'il n'y aurait aucune possibilité de reconstituer une base agricole au pourtour d'une cité urbaine. Donc, ils condamnaient le site et ils s'assuraient que celle-ci ne serait plus jamais une ville. Ils ont dû eux-mêmes payer le prix quelques centaines d'années plus tard quand ils ont voulu réoccuper le site. Dans les guerres modernes, évidemment, vous en avez de nombreux exemples que je suis sûr beaucoup ont à l'esprit. Il y a des dommages qui sont liés directement aux armements.
On pense la bombe atomique, par exemple.
D'une part, mais on pense surtout à l'uranium appauvri qui était utilisé pendant la guerre des Balkans et qui, d'une certaine façon, disons-le, là, sur le plan environnemental, c'est une sorte de cochonnerie, hein, parce que mm-hmm. ça reste à longtemps. Ce sont des morceaux d'armement, des éclats de métaux qui se dissolvent, qui rejoignent les nappes phréatiques et qui restent radioactifs pendant fort longtemps. Donc, voilà quelque chose qui est assez compliqué à gérer.
Mmh. On a le cas de la guerre du Vietnam également, où on a tenté de, non pas de nuire directement, mais de manipuler. Bon, il y a eu l'agent orange, bien sûr, le défoliant, mais également des façons d'essayer de changer le régime des pluies, modifier les moussons.
Oui, ça, c'est peu connu, mais il y a eu beaucoup de programmes militaires qui visaient à manipuler les phénomènes météorologiques, par exemple à provoquer les pluies, à accélérer les, si vous voulez, la livraison des précipitations pendant les moussons, pour rendre la piste aux chimines impraticable. Hein? Et ça s'ajoutait à la tentative de littéralement une déforestation totale, hein, pour enlever le couvert à l'ennemi. Mais vous savez, ces manifestations sont d'ailleurs la base. Elles sont à l'origine d'une réaction assez vive de la communauté internationale. Hein? Puis après la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu aux Nations Unies une résolution d'adopter une convention des Nations Unies pour la protection de l'environnement en situation de conflit armé. Hein. Elle s'appelle NMOD, pour Environmental Modification. Elle existe depuis 1978.
Il y en a plusieurs conventions, plusieurs traités internationaux, Michel Abouchard, qui s'intéressent à l'environnement précisément en cas de guerre.
Si. Il y en a beaucoup. Enfin, l'affiliation du droit de la guerre, si vous voulez, elle est assez ancienne. Ça, on peut aller remonter jusqu'à la déclaration de Saint-Pétersbourg au siècle dernier, qui était une déclaration assez surprenante, mais qui disait un principe assez simple. Les belligérants n'ont pas le droit de tout faire. C'était aussi simple que ça.
Bon. Et il disait, c'est pas à la guerre comme à la guerre.
Voilà. C'était pas à la guerre comme à la guerre. Et c'était une première tentative assez paradoxale de civiliser les hostilités en disant, par exemple, les infrastructures neutres, les maisons, les civils, c'était des évidences, mais il fallait le dire. Hein? Les civils n'ont rien à voir avec le conflit. De sorte que c'est toujours resté avec nous. Ensuite, il y a eu les conventions de Genève. Les civils ne sont pas ciblés. Bon, de la même façon, aujourd'hui, on reconnaît que l'environnement ne doit pas être la cible comme telle. Alors, on en a plusieurs. On a le protocole de Genève qui interdit ce qu'on appelle la guerre écologique. Et on a cette convention des Nations Unies qui interdit ce que d'aucuns appellent la guerre géophysique, puisqu'il s'agit dans ce cas-là d'interdire des manipulations des grands systèmes globaux. Hein, par exemple, l'ionosphère, les perturbations de l'atmosphère en vue de contrecarrer les systèmes de communication ou de provoquer les pluies ou de déplacer les cyclones, etc.
Ce qu'il y a d'ironique, c'est que souvent, la recherche qui se fait dans le domaine scientifique, on peut penser entre autres aux grands moyens dans le secteur des télécoms, commence par l'armée, commence par le militaire. Est-ce que c'est comme ça également pour tout ce qui touche la façon de gérer justement la géophysique terrestre? Est-ce qu'ils font plein de choses qu'on ne saurait pas, par exemple?
Alors, peut-être ça, ce qu'on sait.
Et qui pourrait avoir un impact néfaste.
Mais je ne pense pas. Je pense que la plupart de ces programmes de recherche se sont heurtés à la difficulté du système lui-même. Par exemple, vous savez, on peut faire toutes sortes de science-fiction. Pourrait-on provoquer un tremblement de terre? Vous savez, il y a des conditions dans lesquelles on peut favoriser, si vous voulez, en injectant des liquides sous pression dans les zones de faille, mais on sait qu'à toute fin pratique, c'est à peu près impossible de manipuler ou de gérer des séismes de forte ampleur. Donc, ce genre de choses, je pense que la plupart des groupes militaires qui ont cherché à ce genre de stratégie se sont heurtés à la voie de l'impossible.
Et là, j'entends le géologue qui parle. Vous connaissez bien la Terre.
Oui.
Donc, vous savez ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ou en tout cas le degré de difficulté qui est associé.
Voilà, voilà. Essayer de détruire une forêt, on peut, mais vous savez, même malgré tout, la napalm, on n'y est pas parvenu. Quoi qu'on ait fait une sérieuse blessure à la forêt tropicale vietnamienne à l'époque de cette opération Ranch Hand des Américains.
Alors, Michel Abouchard, vous êtes conseiller principal de la mission d'études des effets environnementaux post-conflit au Congo. Vous travaillez, entre autres, avec le Centre d'évaluation environnementale du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est rattaché à l'Université McGill. Vous faites donc des missions sur le terrain en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste? Vous êtes sur le point, justement, de quitter pour retourner pour une deuxième fois dans ce cadre précis-là. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas qui nécessite que vous ayez sur place voir comment l'environnement a été atteint lors des conflits qui ont fait rage là-bas au cours des dernières années?
Oui, au cours des dernières 15 ans. D'abord, vous savez que le programme des Nations Unies pour l'environnement a une section entière, hein, une branche qui se préoccupe de l'après-conflit et des désastres ou des catastrophes naturelles. Et ils ont, depuis presque une quinzaine d'années, systématiquement lancé des études pour évaluer les effets environnementaux des conflits aux Balkans, au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, hein, en fait. Ils ont fait assez systématiquement. Ils ont peu fait au Congo, c'est-à-dire peu fait en Afrique.
Et pourtant, l'Afrique a été le théâtre de nombreux conflits au cours des 50 dernières années. On peut les compter par dizaines.
Vous avez raison. Et en partie à cause de la difficulté intrinsèque. Les guerres africaines sont pas tout à fait des guerres classiques dans lesquelles on identifie facilement des belligérants avec un bel uniforme qui n'utilisent pas nécessairement des armes modernes.
Oui, la machette, entre autres, au Rwanda.
Bon, il y a mille choses. Hein. Ce sont des conflits multiformes qui sont extrêmement répandus, c'est-à-dire... comme on dirait, généralisé dans le pays, comme en Côte d'Ivoire ou au Soudan ou au Congo. Donc, le programme des Nations Unies a développé une méthodologie qui est assez bien pour des conflits, je dirais, plus classiques. Pour ce qui est de l'Afrique, c'est parce que c'est multiforme, c'est un peu plus compliqué. Et puis, bien qu'ils aient fait des études en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Soudan déjà, le Congo, c'est un très gros morceau. Il vient d'ailleurs de compléter le Rwanda aussi. Mais le Congo, c'est un gros morceau.
Pourquoi? Peut-être rappeler un peu l'échiquier géopolitique qui fait qu'on a eu des conflits là-bas.
Le Congo, d'une part, c'est un immense pays sur le plan géographique. Deuxièmement, c'est un pays dont les voisins sont extrêmement actifs et ont joué un rôle important.
Ils sont très nombreux, il y en a tout le tour.
Oui,
ça brasse beaucoup,
bien sûr.
L'Ouganda, le Rwanda, le Soudan.
Oui, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola. Donc, c'est un conflit complexe aussi, aux sources multiples, aux origines multiples. Les causes du conflit, enfin, il y a peut-être une quinzaine de conflits différents au Congo. Bon, bref, c'est un conflit complexe.
Et d'un point de vue environnemental, c'est l'Afrique des Grands Lacs, c'est le cœur de l'Afrique avec toutes les ressources, la biodiversité, les ressources minières, entre autres. Donc, je suis certaine que ça complique encore plus votre travail sur le terrain, M. Bouchard.
Je ne vous le fais pas dire. C'est un pays donc immense qui a une biodiversité critique, qui a des richesses très grandes et dont tout le monde souhaite qu'il puisse sortir de ce conflit d'une façon durable.
Vous allez vérifier quoi exactement? L'état des infrastructures, la façon dont on a recommencé à exploiter les ressources?
Ben voilà, on a une équipe de quand même d'une vingtaine de personnes le travail est divisé. On a ce qu'on appelle des études ponctuelles, on dit en anglais les desk studies. Hein. C'est des études qui font le statut ou l'état des choses sur une quarantaine de sujets précis. Qui vont aller de l'état de la ressource minérale dans telle région à l'état de la qualité de l'eau, l'état des infrastructures routières. Bon, donc on a ces études.
Peut-être de voir comment les déplacements de population liés aux réfugiés, aux gens qui fuient les conflits affectent également l'environnement et ainsi de suite.
Ça, c'est plus important, de sorte que nous avons convenu, au-delà des études ponctuelles ou des études sur l'état de la situation, nous avons un certain nombre d'études techniques qui mobilisent des équipes de terrain. Et évidemment, les déplacements de population et la situation des réfugiés ou des personnes déplacées est une grande étude qui sera probablement faite en collaboration avec l'UICN, enfin,
l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Et avec le WWF, parce qu'ils sont présents. Ils sont présents dans la région. Donc, ça, c'est une étude technique. Nous en avons une autre étude sur les ressources minières du Katanga. Parce que il s'agit d'une richesse historique.
On y trouve quoi là-bas dans les mines?
Ah, vous avez à peu près tout ce que vous avez dans
tout
le tableau
ce qu'il y a de la
périodique,
valeur.
Mais on s'intéresse en particulier aux mines d'uranium au Katanga. Et évidemment, la gestion des ressources de tantale et de niobium dans les Kivus. Il y a
les métaux rares, donc, entre autres,
voilà,
en cas de niobium.
Les métaux qu'on peut dire technologiques, mais qui font... Bon, il y a... Nous avons une étude sur les déplacements de population à l'échelle du pays, par exemple, et l'effet sur l'urbanisation. Donc, on a une étude entière sur la ville de Kinshasa. et sur la croissance urbaine dans les villes périphériques. Donc, on a un certain nombre d'études techniques plus poussées qui représentent des missions de terrain. Alors, c'est un peu le travail qu'on fait là, et on va essayer de faire une synthèse, à la fois un diagnostic sur ce qui s'est produit, ce qui peut être réparé et ce qui est la base de la reconstruction. Vous ne m'avez pas posé la question, mais ça va venir, parce qu'une des études techniques très précises est sur la biodiversité et la conservation des aires protégées.
Il y a des gorilles dans ce coin-là unique, hein?
Entre autres. À la fois les gorilles des montagnes et les gorilles des plaines, les deux espèces étant... si vous voulez, en danger, dans le sens que ils sont un peu sans protection.
Victime du braconnage, entre autres?
Victime du braconnage, victime de la malfaisance aussi. Et on sait que certaines familles de gorilles ont été décimées, un peu comme les Romains salaient Carthage, hein, dans la volonté avouée de nuire ou d'empêcher tel autre groupe de profiter des ressources touristiques que représenteraient les gorilles.
Quand vous arrivez sur le terrain pour faire ce travail-là, les autorités, comment vous accueillent-elles? Souvent, d'anciens belligérants peuvent être aujourd'hui au pouvoir et être un peu co-responsables dans tous les torts qui ont été faits. Comment vous arrivez à jongler avec ça, Michel Aboucheur?
Bien, c'est une question difficile. Il m'est arrivé même d'être assis avec le ministre de l'Environnement il y a quelques années, qui était un rebelle, en fait,
oui.
qui faisait le gouvernement de coalition. C'est des choses qui se produisent. Quand on travaille au Rwanda, on ne sait pas l'histoire des gens avec qui on travaille. Hein. Ils ont vécu et connu toutes sortes de choses. Je pense que la meilleure attitude, et c'est celle que nous avons, nous sommes résolument tournés vers l'avenir, hein, et vers la solution. Il n'y a pas de solution au Congo qui soit purement politique. Toute solution doit passer par une exploitation intelligente des ressources de l'Afrique centrale. Et ça, cette point de vue-là, quand il nous mobilise, bien, on peut oublier beaucoup de choses du passé. On regarde le présent, on regarde ce qui existe, ce qui reste, sans nostalgie, sans faux drame, en se disant, dans 20 ans, comment on s'assure que ces choses-là ne se reproduisent plus et que les gens du Kivu ont la paix et nonobstant l'ensemble des richesses qui s'y trouvent, ont la prospérité.
Tout un défi.
Mais
20 ans, c'est un échéancier assez court.
Mais je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible.
Et donc, ce rapport sur le Congo, l'évaluation post-conflit, c'est un travail qui va vous prendre encore plusieurs mois, plusieurs années à accomplir?
Juin 2010, c'est la période où nous prévoyons remettre le rapport. Un rapport dont la partie principale sera, si vous voulez, les recommandations de... non pas d'une paix, mais d'une gestion durable des ressources comme élément de condition essentielle à une paix durable.
Écoutez, Michel Aboucheur, je vous remercie infiniment d'être venu dans nos studios aux Années Lumière. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Chantal de Srivastava s'entretenait avec Michel A. Bouchard, conseiller principal de la mission d'études des effets environnementaux post-conflit au Congo. L'auteur de la semaine, pour terminer cette édition, l'auteur de la semaine qui nous propose un livre sur un sujet très vaste, le cerveau, et sur une période très longue, de l'Antiquité à nos jours. Cet auteur, c'est le docteur André Parent, neurophysiologiste à l'Université Laval et au Centre de recherche de l'hôpital Robert Giffard à Québec. Son livre s'intitule « Histoire du cerveau », c'est publié aux presses de l'Université Laval. Le docteur Parent est dans notre studio à Québec. Bonjour, docteur Parent.
Bonjour.
Alors, bien sûr, il va falloir aller vite hein, pour parcourir cette longue histoire de la découverte de son cerveau par l'homme. Mais en deux mots, là, disons de l'Antiquité à la Renaissance et un peu plus, là, on a l'impression que le cerveau, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il soit défini comme un organe noble, comme on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. De l'Antiquité à la Renaissance, en fait, il y a eu une très, très lente évolution, en fait, du cerveau. Enfin, de l'idée que l'homme se fait de son cerveau, de son organe de connaissance. Il y a eu toutes sortes de théories un petit peu plus ou moins farfelues, là, en fait, mm-hmm. sur la fonction du cerveau. Il faut bien comprendre que les gens, à l'époque, n'étaient pas à même de bien comprendre ce qu'il en était. Mm-hmm. Donc, il y a eu une très, très lente évolution qui s'est accélérée au niveau de... principalement à la Renaissance. Un des gros problèmes, c'est qu'on ne pouvait pas disséquer le cerveau humain facilement au cours de l'Antiquité. Donc, les connaissances qu'on a obtenues étaient vraiment très théoriques, en fait, avec cette fameuse théorie des humeurs et tout ça. Là. Mm-hmm.
Et ça va aller donc très, très jusqu'à la Renaissance. Alors, on commence à comprendre un peu mieux la chose. Une théorie très mécaniciste. Hein? Voilà. Le cerveau est une machine.
Voilà, voilà. Le cerveau machine, oui. Mm-hmm.
Après une théorie électrique, le cerveau, on découvre qu'il y a de l'électricité qui est impliquée là-dedans, mais on ne comprend pas très bien.
Voilà.
Et fin 18e, début 19e, on va vite hein, dans l'histoire, il y a cette vision qui semble un peu bébête et très moderne de Gall et de la phrénologie, hein, la bosse des mathématiques, bosse du crime, etc. Ouais. Je dis c'est bébête et c'est très moderne parce que c'est quand même la première fois où on regarde le cerveau comme une machine dont certaines parties font certaines choses.
Tout à fait. Gall, évidemment, on peut se moquer à distance, évidemment. Ce que je dis toujours aux étudiants, c'est qu'il faut faire attention, il faut replacer, évidemment, ces découvertes-là dans leur contexte historique, bien sûr. Et Gall avait eu cette idée absolument géniale, à savoir que le cortex cérébral, l'enveloppe du cortex, du cerveau humain, était en fait constituée d'organes spécifiques, d'organes distincts qui contrôlaient chacune une fonction spécifique. Malheureusement, sa théorie pour démontrer ça, évidemment, c'était... Son idée, à lui, c'était que le développement du cortex cérébral s'imprégnait en quelque sorte sur la surface du crâne.
Du crâne, oui. Voilà. La bosse des maths, par exemple.
Et voilà, c'est ça. Il suggérait de palper le crâne des individus pour voir essentiellement comment les différents organes corticaux étaient développés ou sous-développés. Et puis, de cette façon-là, il croyait arriver à définir les traits, les principaux traits de la personnalité des individus.
Alors ça, on est à la fin du 18e, voilà. Début du 19e, et le 19e, c'est vraiment le premier âge d'or de l'étude du cerveau. Vous dites que c'est une bouillonnante période, le cerveau devient l'organe le plus noble. Il y a la méthode anatomo-clinique qui dit, au fond, on regarde la maladie ou la lésion du cerveau pour comprendre son fonctionnement normal. C'est vraiment une période fabuleuse. Ça vous fascine, vous, le 19e?
Ah, le 19e siècle, à mon avis, à mon humble avis, en tout cas, c'est vraiment la période où tous les principaux concepts, en fait, sur lesquels sont basées les neurosciences contemporaines, ont vu le jour, hein, oui. Essentiellement. C'est sûr que ça a été conservé jusqu'à aujourd'hui sous des formes modifiées, on s'entend, là, mais quand même, le 19e siècle a été une période fabuleuse, une période où les gens ont porté une attention. Le cerveau était devenu, pour les gens au 19e siècle, l'organe suprême. En fait, on croyait même que la plupart des maladies avaient leur origine dans le cerveau. Là.
Alors, on va découvrir, par exemple, la zone du langage avec un grand neurologue qui s'appelle Paul Broca. Hein. Il faut, par exemple, expliquer un peu, par exemple, ce que Broca amène. On est au milieu du 19e avec lui. Hein?
C'est ça. Au milieu du 19e, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, la théorie phrénologique dominait. Enfin, les gens, les scientifiques avaient abandonné cette théorie, bien sûr, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'évidemment, le cortex cérébral ne s'imprègne pas sur la surface du crâne, bien sûr.
Non, oui.
Donc, il y avait eu, à la suite de la phrénologie, en fait, une bataille tout à fait épique là, entre les gens qui croyaient que le cerveau était constitué d'une seule et une seule entité indivisible, ce qu'on appelait les unitaires, et les gens qui suivaient un peu Gall avec la phrénologie, qui croyaient au contraire que le cerveau était constitué d'organes spécifiques qui contrôlaient des fonctions particulières. Et c'est Paul Broca, justement, comme vous le disiez, là, au 19e siècle, qui va en quelque sorte faire pencher la balance du côté de Franz Joseph Gall, à toute fin pratique, en démontrant l'existence d'une zone qui contrôle le langage articulé, ce qu'on appelle aujourd'hui la phasie motrice. Et c'est en étudiant un individu qu'on appelait Monsieur Tan, que son nom était Le Borg, en fait, et c'était un patient qui souffrait d'aphasie motrice. Et grâce à cette méthode dont vous avez parlé, la méthode anatomo-clinique, Broca, lors du décès du patient, a pu se rendre compte que ce patient souffrait d'une lésion tout à fait spécifique, localisée dans le lobe frontal. Et c'est comme ça que...
À gauche du
à
cerveau,
gauche,
etc.
C'est ça.
Et d'ailleurs,
c'est ça.
On l'appelle maintenant l'ère de Broca, d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est
tout
ça,
à fait.
Ouais. Broca a aussi montré que les deux hémisphères cérébraux ne font pas tout à fait la même chose. Il y a une domination dominance, par exemple, du côté gauche pour le langage. On va parler voilà. de la dominance du côté droit pour d'autres choses. On va parler oui. du cortex moteur, du cortex frontal.
Voilà.
Avec une histoire, celle de Phineas Gage, un accidenté terrible hein, au milieu du 19e aussi.
Qui oui,
va,
oui, oui.
On va voir que le cortex frontal est très important. Hein.
Oui, ben Phineas Gage, évidemment, c'est un accident. Hein, c'est un type qui travaillait sur les chemins de fer, dans le Vermont, très près d'ici, d'ailleurs. Mm-hmm. Et à un moment donné, il est arrivé un accident. Il y a une barre de métal qui a traversé le crâne, carrément. Mm-hmm. Et ça a causé ce qu'on appelle aujourd'hui une lobotomie, en fait, une partie du lobe frontal qui a été lésée. Et à la suite de cette lésion, ben, Phineas Gage s'est retrouvé avec des troubles de comportement assez importants.
Des troubles de personnalité, voilà, hein, voilà, oui, voilà. devenu vulgaire, etc.
Voilà. De, à tel point que ses patrons l'ont congédié carrément. Là. Mm-hmm. Et ce pauvre Phineas Gage est allé par la suite travailler dans les cirques un peu partout, cirque Barnum and Bailey, entre autres. Et il s'est retrouvé, enfin, pour faire une histoire courte, en Amérique du Sud. Il est revenu ensuite en Californie où on a fait l'autopsie du cerveau pour s'apercevoir que, évidemment, c'était le lobe frontal qui était surtout touché dans ce cas-là et le centre de la pensée abstraite, la personnalité.
Exactement. Donc, c'est comme ça qu'au 19e siècle, on découvre un peu les différentes fonctions et différentes zones du cerveau, à quoi ça sert. Et le grand nom, ça va être quand même Jean-Martin Charcot, le grand patron français de la neurologie. Je ne sais pas si on appelait ça neurologie à l'époque, déjà, oui. Et qui va mettre un peu de l'ordre hein, dans toutes ces questions de maladies du cerveau. Il va les décrire, les classifier, les nommer.
Voilà.
C'est un personnage fabuleux. Hein.
Ah, Charcot, c'est un personnage énorme dans l'histoire de la neurologie. C'est lui, effectivement, qui a construit la neurologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il l'a fait à la Salpêtrière. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller travailler à la Salpêtrière pendant un bon bout de temps. Donc, à l'origine, la Salpêtrière, comme vous le savez probablement, c'était un asile, en fait.
Un camp de concentration.
Voilà. Oui. C'était le grand renfermement. On renfermait tous les gens qui pouvaient troubler la société. Là. Mm-hmm. Et là, lorsque Charcot est arrivé en 1852, si ma mémoire est bonne, à la Salpêtrière, ben lui a décidé de faire un peu le ménage dans tout ça et classifier, comme vous le disiez, les différentes maladies. Il s'est attaqué à ce qu'on appelle aujourd'hui la nosologie, c'est-à-dire la caractérisation des différents types de maladies. Et il a fait une corrélation très précise entre les signes neurologiques, c'est-à-dire ce que l'observateur voit quand il analyse le patient, ce que le patient dit ressentir, et finalement, tout ça ramassé pour donner un syndrome neurologique. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, les maladies neurologiques étaient très mal connues. Hein. Par exemple, le tremblement pouvait être considéré comme une maladie à part entière, alors que différents stages d'une même maladie pouvaient être considérés comme des entités pathologiques distinctes.
Et Charcot, lui, va classifier tout ça. Sclérose en plaques, Parkinson,
maladie etc. de Parkinson.
Il va travailler vraiment dans des domaines extraordinaires. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est lui qui va séparer la neurologie de la psychiatrie d'une certaine façon?
En quelque sorte, oui, tout à fait. Mm-hmm. Oui, on pourrait dire ça.
Alors, Charcot meurt vers la fin du 19e siècle, à peu près.
1893.
1893. Oui. Là, on arrive donc fin 19e, début 20e. Ça va être la découverte du neurone comme unité fonctionnelle hein, du cerveau, découverte des neurotransmetteurs, parce que le cerveau, c'est aussi une soupe chimique.
Voilà.
Alors, on va encore sauter ça pour arriver, si vous voulez bien, en réparant, à ce que j'appellerais le deuxième âge d'or du cerveau, si vous me permettez. C'est celui qu'on vit actuellement, celui de neurosciences, comme on dit, qui débute dans les années 50-60.
Voilà.
Et qui va permettre d'immenses percées sur la compréhension du cerveau de certaines fonctions, la mémoire, par exemple.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Les neurosciences contemporaines, en fait, comme vous le dites, c'est apparu cette notion un peu vague, hein, cette science plurielle, 1950 à peu près, les débuts. Et c'est une discipline qui a connu une évolution absolument remarquable. On a rarement vu ça dans l'histoire des sciences, qu'une discipline prenne autant d'envergure. En fait, les neurosciences sont en train ont commencé à envahir quasiment tous les domaines du savoir humain, y compris les sciences cognitives.
Alors, il y a eu beaucoup de découvertes, beaucoup de travail, le monde de la mémoire, le sommeil, la neurogénèse chez l'adulte, hein, des nouveaux neurones chez les adultes, c'est encourageant pour tout le monde.
Oui, c'est encourageant de savoir qu'on a des ondes dans le cerveau où on continue de produire des nouveaux neurones, même à l'âge assez avancé. D'ailleurs.
C'est ça, mais il reste quand même plusieurs murs sur lesquels on se cogne, hein, la conscience, l'intelligence, par exemple.
Oui, voilà. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de gens qui essaient, certains groupes de neuroscientifiques, scientistes, en fait, scientifiques, actuellement, qui essaient de comprendre, par exemple, ce que c'est que la conscience. Alors, il y a beaucoup de théories. Et là, vraiment, en tout cas, à mon humble avis, là, on frappe un petit peu un mur en ce qui concerne les neurosciences. Et on n'a peut-être pas les instruments actuellement pour comprendre ces phénomènes.
Même si on peut voir le cerveau en action aux instruments modernes. Ça change quand même beaucoup le travail des chercheurs, d'avoir des instruments aussi puissants que l'imagerie fonctionnelle ou autre. Ça, c'est très nouveau aussi.
Ah, c'est très nouveau. On peut voir le cerveau, comme je le dis, chez l'être vivant. Maintenant, c'est la méthode, la méthode anatomoclinique de Charcot, qui est maintenant réactivée, réactualisée, et qu'on peut voir chez l'individu vivant, au fond. Mais évidemment, toutes ces disciplines-là ont des limites. Hein, quand je le marque dans le volume, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui est très curieux, c'est que certains travaux d'imagerie cérébrale traitent, par exemple, on montre à une femme, par exemple, le visage de son enfant, puis on essaie de voir dans le cerveau humain les zones qui sont activées. Et aussi, par contre, on étudie des moines en méditation profonde.
Oui.
Et on essaie de comprendre les zones qui sont activées. Alors, il y a un petit relent, moi, que j'appelle un peu ça la nouvelle phrénologie. Ça ressemble beaucoup à ce que Gall nous essayait de nous faire comprendre avec l'amour de la progéniture.
Et peut-être beaucoup d'interprétations, soit exagérées, soit naïves, de ce qu'on voit dans la machine quand ça s'allume, comme on dit.
Voilà. Il faut savoir interpréter ces données.
Et ne pas dépasser ce que la science nous dit. En conclusion, André Parent, on est allé vraiment très, très vite. Est-ce qu'on dirait, on dit souvent, le cerveau, c'est la boîte noire. Est-ce que vous, comme spécialiste du cerveau, vous dites encore le cerveau, une boîte noire?
Je dirais encore le cerveau, une boîte noire. Ce qui me fascine, moi, c'est avec le développement des neurosciences aujourd'hui, ça évolue à une vitesse fabuleuse. Et que ce qui arrive, c'est que l'image qu'on se fait de notre cerveau évolue constamment. Et c'est très difficile maintenant d'avoir une idée fixe. Hein?
Mais on a quand même des acquis importants au bout de tous ces siècles de recherche.
Ah, ces siècles de recherche ont apporté, surtout avec la neurogénétique, l'implication de la biologie moléculaire au niveau des neurosciences, ça nous permet d'envisager des traitements pour des maladies neurodégénératives, entre autres, ou des maladies psychiatriques qui n'étaient pas possibles il y a à peine 10 ans, là, bien sûr.
André Parent, je vous remercie beaucoup. Je vois que votre histoire du cerveau devrait y avoir d'autres chapitres qui vont s'y ajouter au cours des ans qui viennent. Et je rappelle le titre de votre livre, donc « Histoire du cerveau de l'Antiquité aux neurosciences ». C'est publié aux presses de l'Université Laval. Merci beaucoup d'être venu en studio à Québec.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Et voilà, c'est tout pour cette édition des Années-Lumière réalisée par Robert Lamarche, que je remercie pour les semaines qu'il vient de passer avec nous. Merci Robert. À la technique, Isabelle Morissette, journaliste, Gaëlle Lucia Berdou, Hugues de Roussan et Chantal Srivastava, journaliste au site internet, Lily Marin, chroniqueur, Marie-Dominique Beaulieu, c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.